Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Bienvenue sur Votre santé, votre avenir. Dans cette émission, nous discutons avec M. Jean-Marie Chipama de Kananga, qui est une personne vivant avec le virus et qui est aussi un activiste pour de meilleures conditions de vie pour les personnes vivant avec le virus. Et nous avons aussi Pierre Ngoyi qui nous appelle du Bas-Congo à Boma. Bonjour Pierre, vous êtes là ?
Oui, je suis en ligne. Bonjour.
Très bien. Alors, merci, restez à l'écoute. Hein. Jean-Marie, dites-nous un peu comment vous vivez avec le virus.
Oui, merci. Je connais mon statut sérologique depuis 2006, où je suis passé au dépistage volontaire. Pour le moment, je suis sous ARV, c'est depuis 2006, et je mène ma vie positivement. J'apporte quand même ma petite contribution à la société dans laquelle je suis vraiment intégré, puisque je suis activiste des droits de l'homme en général et activiste des droits de PVV au niveau de notre pays.
Est-ce qu'aujourd'hui, le traitement ou bien même la prise en charge des PVV est bien menée en RDC?
La prise en charge en RDC est quand même la bienvenue, mais sauf qu'il y a encore des petits problèmes. Je ne peux pas affirmer ici sur place que la prise en charge est totale ou holistique. Parce que vous voyez, la PVV, normalement, doit être soumise à au moins 3 prises en charge. Premièrement, il y a la prise en charge médicale, il y a les ARV, et ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas seulement que les ARV, il y a aussi un suivi biologique qui doit être fait. Mais pour le moment, ici, dans notre province du Kassai occidental, on ne parle jamais d'un suivi biologique, puisqu'on ne sait pas. Parce que depuis 2006, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis passé au suivi biologique une fois seulement. Alors, le compteur CD4 qui est disponible ne fonctionne pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la prise en charge psychosociale. L'accompagnement psychosocial pose des problèmes puisque nous, au niveau de notre organisation, l'Union congolaise, des organisations de personnes vivant avec le VIH, nous développons des groupes de support de PVV. Ce sont des organisations à assise communautaire qui apporte des contributions au niveau de nos différentes localités, au niveau de nos zones de santé. Mais ces groupes de support ne sont pas organisés et ont besoin d'un certain renforcement de capacités pour qu'ils arrivent à la hauteur de porter leurs contributions dans la lutte contre le VIH. Vous savez que la PVV est au centre de cette lutte. Mais si la PVV n'est pas vraiment soutenue, si la PVV n'est pas appuyée, leur organisation ne sont pas vraiment organisées et renforcées. En tout cas, elle ne sera pas en mesure d'apporter quelque chose dans la communauté. Et la troisième des choses, c'est la plus nutritionnelle. Je pense qu'il y a un temps que le Fonds mondial, dans son programme VIH, développait des activités génératrices de revenus. Mais depuis un temps, il y a un problème. Depuis que le Fonds mondial a pris ses décisions, la PVV aussi ne sait pas vraiment faire face aux effets secondaires des ARV. Tu vois, c'est un traitement en vie. La PVV n'est pas vraiment capable de bien manger. Et j'allais oublier une chose. Au niveau de la prise en charge médicale, il y a aussi un problème très sérieux qui se pose, c'est celui de la prise en charge des infections opportunistes. C'est là que l'ARV tue. De plus, maintenant, la PVV, ce n'est pas le virus en soi, puisque les ARV ont essayé quand même, dans une certaine mesure, d'arrêter la multiplication de ce virus. Mais les infections opportunistes vraiment tuent le PVV. Et et en quelque sorte les difficultés que nous ressentons en tant que pays ici au passage occidental.
Avant de développer avec vous, Jean-Marie, je vais demander à notre ami Pierre Ngoyi qui vous a écouté. C'est là une question pour vous. Pierre, vous avez une question pour Jean-Marie?
J'ai une question parce que j'ai, ici, c'est le Bagoma. Nous avons des gens qui ont des VIH SIDA et des personnes ne veulent pas aller dans les hôpitaux pour être dépistées. Nous voyons qu'il y a une augmentation, un taux élevé de l'augmentation des SIDA ici à Boma, du VIH. J'aimerais demander à mon confrère du Kasaï occidental s'il peut donner un conseil aux gens qui habitent ici à Boma, parce que l'émission est suivie aussi à Boma, s'il peut réagir et peut répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il peut dire à ces gens qui refusent d'être dépistés ici à Boma? Il y a plusieurs personnes qui refusent d'être dépistées.
Merci. Jean-Marie, vous avez vous-même fait un dépistage volontaire il y a quelques années et c'est comme ça que vous avez connu votre état sérologique. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne veulent pas connaître leur état sérologique?
En tout cas, merci beaucoup à notre ami de Boma. La question est vraiment pertinente. Vous savez, le VIH-SIDA est une pandémie qui décime vraiment les populations. C'est un virus qui est vraiment dangereux et qui se multiplie avec une vitesse vraiment décourageuse. Alors, les conseils que nous lui donnons en tant que PVV, puisque nous, au niveau de l'ICOP+, nous avons une vision. Notre vision, c'est d'ériger une barrière entre le VIH que nous portons et nos familles. C'est d'ailleurs le gros travail que nos associations à assises communautaires sont en train de battre dans nos communautés. Les conseils qu'ils apportent à nos communautés, c'est celui d'utiliser tous les moyens de prévention. Et parmi ces moyens de prévention, il y a le dépistage volontaire qui est vraiment nécessaire. Pourquoi refuser d'aller au dépistage? Puisque le VIH est là, dans nos murs. Jean-Marie qui vous parle, ici à Kananga, je dis que j'ai le VIH-SIDA. Et ce n'est pas une maladie qui tue maintenant, c'est une maladie chronique comme toutes les autres maladies. Mais alors, souvent nous conseillons aux gens, nous conseillons à nos communautés d'aller faire une prévention en allant se faire dépister. Pourquoi nos amis de Goma ne veulent pas aller au dépistage? Ce n'est pas bien. Il faut aller au dépistage. Puisque quand on va au dépistage, il n'est pas dit nécessairement que l'organisme a déjà contracté ce virus. Et quand on va au dépistage, il y a deux voies. Il peut se faire qu'on n'ait pas encore contracté le virus ou bien qu'on soit dans une catégorie de personnes qui ne développent pas ce virus-là. Alors, si on est devant un tel résultat, on peut prendre des précautions. Dire qu'on ne veut pas aller, ce n'est pas bien, puisque le virus est là, il est déjà passé. C'est à travers le monde qu'on est en train de se battre pour le buter hors de nos murs. Mais il refuse pourquoi? Il doit aller, il ne doit pas avoir peur, puisque la seule voie, ce n'est pas l'unique voie avant le VIH quand on va au dépistage. Une autre voie, on peut le contracter. On peut l'avoir déjà contracté, mais ce n'est pas un drame, puisque nous avons beaucoup de personnes vivant avec VIH qui mènent leur vie positivement et qui sont quand même utiles à la société. Alors, si on a déjà contracté, ce n'est pas un drame. Pourquoi ils ont peur? Puisque même lors de nos séances de sensibilisation de nos communautés, les gens nous disent, voilà, nous ne pouvons pas aller, peut-être ils essaient un peu de refaire leur histoire. Ils ont peur d'aller au dépistage. Ce n'est pas bien. Il faut aller au dépistage. Il y a deux solutions. Ou bien on a déjà des VIH, ce n'est pas un problème, puisque le PVV, il y en a beaucoup à travers le monde qui sont mis sous ARV. Et les ARV les aident quand même à prolonger leur vie. Et si on va au dépistage et on n'est pas entré juste là en contact avec le virus, je pense qu'on prend des précautions. C'est la meilleure des choses. Et c'est parmi les moyens de prévention, il faut aller au dépistage. Pourquoi nos amis de Goma ne veulent pas aller au dépistage? Je les interpelle vraiment à aller au dépistage avec courage, même s'ils tombaient dans les cas où ils ont déjà contracté. Ce n'est pas grave, mais Jean-Marie est là depuis 2006. Hein, je ne crains pas le virus, je vis avec le virus à l'aise, je mène ma vie comme tout le monde, je pense qu'elle était ici, et a vu comment les PGV sont en train de mener leur vie.
Merci beaucoup Jean-Marie pour ce conseil magnifique qui certainement a été entendu par nos éditeurs à Boma. Nous allons revenir un peu sur les différents problèmes, les différents points que vous avez soulignés il y a un instant. Donc la prise en charge médicale, à mon avis, donc ce qui marche le mieux pour le moment, bien qu'elle ne soit pas très complète selon vous. Qu'est-ce qu'il faut pour l'appui nutritionnel? Nous savons que les personnes vivant avec le virus prennent les ARV et les ARV demandent quand même une nourriture assez soutenue et assez régulière. Qu'est-ce qui est fait?
Vous voyez, c'est un traitement à vie. Pour vraiment les supporter, il faut les avoir et avoir aussi une nourriture appropriée et consistante. Avec les fonds mondiaux, il y avait quand même une activité générative de revenus qui aidait la PGV à avoir son pain quotidien. Et en dehors de ça, il y avait un appui alimentaire, un kit alimentaire qui était donné surtout aux personnes vivant avec VIH qui étaient déjà sous ARV. Bon, je pense qu'il y a d'autres qui sont sur la ligne d'attente, mais on donnait priorité à ceux-là qui étaient déjà mis sous ARV.
Jean-Marie, est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, avec l'arrêt de l'assistance, de la contribution du Fonds mondial, cet appui nutritionnel n'existe plus?
Oui, cet appui nutritionnel n'existe plus. Et il y a beaucoup de PGV qui sont vraiment, qui vivent vraiment dans des difficultés, puisqu'ils ne savent pas. Vous savez, Kali, le virus, c'est un virus dangereux. Et puis, si on ne fait pas attention, on se retrouve avec ce statut, mais on n'a plus rien. Puisque au début, là, ce sont toujours des petites maladies, voire des infections opportunistes là-bas. Peut-être si on ne fait pas attention, si on ne suit pas les conseils, on ne peut pas s'apercevoir qu'on a le virus. On va tâtonner, c'est un peu de dépenser de l'argent par-ci, par-là. Et je vous dis que ce virus dépouille vraiment la PGV. Et il y a beaucoup d'ailleurs, surtout la majorité, ce sont des femmes. Des femmes. Souvent, quand il y a le mari qui part, la belle famille prend tout et la femme se retrouve vraiment maigre de lui. Mais comment elle peut faire? Elle prend des ARV tous les jours. Où est-ce qu'elle peut avoir son pain quotidien? Je pense qu'avec ce programme-là, l'appui nutritionnel, la personne vivant avec VIH vivait quand même très bien et n'avait pas tellement de problèmes, puisque c'était d'un kit vraiment complet et consistant. On avait travaillé avec l'appui du Pronanic, le programme national de nutrition. Il y avait vraiment tous les éléments qui pouvaient aider la PGV à supporter les effets secondaires de l'ARV. Vous voyez, c'était un traitement à vie, mais ça n'existe plus. Alors, ça n'existe plus, c'est cet appui nutritionnel-là qui est vraiment important.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité est Jean-Marie Chipama de Uco Plus à Kananga, activiste des droits de l'homme et activiste pour de meilleures conditions de vie des personnes vivant avec le virus. Au micro, Khalil Gay. Jean-Marie Chipama, nous avons donc retenu votre appel pour l'appui nutritionnel et nous allons avancer vers le suivi biologique. Il est régulier? Est-ce que toutes les PVV ont accès à ce suivi biologique? Qu'est-ce qui se passe si le suivi n'est pas assuré pour la personne qui vit avec le virus?
Oui, le suivi biologique est vraiment très nécessaire. D'ailleurs, vous allez vous souvenir que pour mettre une PVV sous ARV, il faut se fier au résultat d'un suivi biologique. C'est qu'il faut faire ce qu'on appelle le compteur CD4. Et sur base de du taux de CD4 que le prescripteur arrive à mettre une PVV sous ARV. Et ce suivi biologique est encore important parce que c'est à partir du suivi biologique du taux du CD4 que le prescripteur peut se dire que les ARV sont en train de répondre. Mais ici, à Kananga, on ne sait pas quel taux de CD4 on a. Nous prenons les ARV en désordre, on ne sait pas dire est-ce que ces ARV répondent ou pas. C'est pour cela que nous enregistrons parfois des cas de décès, disons, subitement, parce que ce suivi n'est pas fait. Donc ici, chez nous, le Fonds mondial a rendu disponible des compteurs CD4. Nous avons ici, à Kananga, au labo commercial, un compteur CD4, et à Tsikapa, dans la ville de Tsikapa, il y a encore un autre compteur CD4. Mais nous avions marché, je vous dis, nous avions marché, il y a un problème d'énergie. C'est que ce compteur n'était pas tourné à cause, au début là c'était à cause de temps, et maintenant c'est le problème d'énergie, le carburant, on ne sait pas tourner le groupe pour faire fonctionner ce compteur CD4. On a marché, on est fatigué. Alors qu'est-ce que le médecin inspecteur provincial nous dira? Pour résoudre ce problème, il faudrait peut-être l'aider pour qu'on pense à une énergie solaire. Alors pendant ce temps, on est là, vraiment en l'air, on ne sait pas. Je vous dis, depuis 2006, j'ai passé cet examen une fois seulement. C'était, je pense, l'année passée, il y a Sanru qui était là avec une formation en paquet complet VIH. C'est à cette occasion-là que j'ai fait mon test compteur CD4. C'est vraiment une grande difficulté. Pour le moment, nous sommes en train de courir derrière le gouvernement provincial qui a promis aussi de faire quelque chose, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de suite. Il y a un problème de carburant qui se pose, mais le compteur CD4 est là et on a peur peut-être qu'un jour, on nous dise qu'il est tombé en panne. Alors qu'il n'a pas aidé cette personne vivant avec le VIH qui doit savoir à quel niveau il est avec la prise des ARV. Puisque c'est à partir de CD4 qu'on peut dire que la PVV des ARV répond ou ça ne répond pas. Et à partir des contrôles CD4, ça peut aider la PVV à changer même de comportement puisque on ne suit pas les instructions du prescripteur, il peut se faire que la PVV soit toujours dans des petits problèmes des infections post-uniques et qu'on sort. Mais je me suis toujours demandé, mais comment on fait pour nous mettre ici au cachet occidental sous ARV?
Nous allons nous rendre à Lubumbashi, écouter notre reporter Régine Kasongo, qui a fait un travail sur la co-infection dans la province.
Le VIH-Sida est une maladie du siècle qui cause de nombreux problèmes de santé publique. La venue de cette pandémie coïncide avec la hausse de l'incidence de la tuberculose chez certains malades positifs. Les personnes infectées par le VIH-Sida présentent des infections opportunistes, précise Dr Pablo Ngwech, expert en VIH-Sida.
Les infections opportunistes n'arrivent que chez la personne qui son système immunitaire est déficient. Cette personne va donc avoir besoin des médicaments au regard du diagnostic que va poser le médecin. Et donc là, nous avons la prise en charge médicale.
Pour sa part, le docteur Guilain Kinkiboko, coordonnateur du forum Sida Katanga, souligne que la tuberculose cause des dégâts sur un terrain déficitaire.
Étant donné que la tuberculose aujourd'hui est tellement répandue à telle enseigne, on arrive maintenant à confondre la tuberculose maladie maladie et la tuberculose co-infection sida. Mais la plupart aujourd'hui des cas de tuberculose sont réellement co-infectés avec le sida. Elle est contagieuse. Alors que le sida aussi se transmet par des relations conjugales ou par du sang infecté ou de la mère à l'enfant. Mais la tuberculose étant une maladie qui fragilise l'organisme, sur un terrain fragilisé du sida, la tuberculose est vraiment dangereuse.
Il poursuit par dire que le taux des personnes co-infectées par le VIH et la tuberculose est élevé.
Mais chez 70 à 80% des cas atteints du sida, ils font toujours la tuberculose. Elle peut être pulmonaire, osseuse ou ganglionnaire. Il y a beaucoup de tuberculose parce que les gens pensent que pour la tuberculose, il faut toujours tousser. Alors qu'il y a beaucoup de sortes de tuberculose qui peuvent s'installer sur un terrain déficitaire chez la personne à VIH positif.
Une prise en charge soutenue est donc nécessaire afin de minimiser les dégâts dus à la co-infection VIH-tuberculose. Lubumbashi, Régine Kasongo, votre santé, votre avenir, la voix de l'Amérique.
Jean-Marie, vous avez entendu ce reportage de Lubumbashi. On parlait un peu de la co-infection tuberculose-sida. Et vous, vous avez aussi parlé du danger que représentent justement les opportunistes, les infections opportunistes. Alors, qu'est-ce qui est fait actuellement à Kananga par rapport justement aux infections opportunistes?
Pour le moment, nous avons le cas, par exemple, de tuberculose qui sont pris en charge quand même gratuitement. Parce que là, le produit est gratuit. Mais il n'y a pas que la tuberculose. Il y a des infections opportunistes, je ne suis pas technicien aussi pour le citer, mais il y a un problème. Quand vous allez au centre de traitement, on vous trouve avec une infection opportuniste, c'est une ordonnance qui est livrée. Mais la PVV, qui est dépouillée déjà au départ, ne sait rien faire, il prend des ARV, mais cette infection-là persiste. Et ça la tue. Il y a beaucoup de cas que nous sommes en résolution actuellement au Café occidental. Et ce sont des décès dus aux infections opportunistes. J'ai un cas d'une PVV que nous avions pu accompagner avec les moyens de bord. Cette PVV a des syphilis. C'est une femme qui est un peu avancée en âge, mais on a tout fait et ça nécessite une opération. D'après le médecin, on a prescrit les antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques, jusqu'à un niveau où on pouvait demander par-ci, par-là, pour que ce cas-là soit quand même bien traité. Bon, il y a beaucoup d'infections, mais on ne sait pas, on n'est pas vraiment à la hauteur de faire face à ces infections-là. Puisque partout où nous sommes pris en charge, il n'y a que des ARV qu'on donne gratuitement. Mais en cas d'infection, ce sont les ordonnances médicales qui sont vraiment prescrites. Et ça pose problème. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas vraiment à faire face à ces problèmes-là. Bon, jusque-là, bien sûr, au début, là, quand on était soigné, on a un problème d'infection opportuniste. Il y avait, en ce temps-là, à mon Congo, qui était soutenu par le Fonds mondial, qui donnait presque pour qu'ils prenaient tout, même nos enfants qui sont les orphelins du VIH, étaient pris en charge parce que souvent nos enfants, pour la plupart, ils n'ont pas le VIH. Et quand ils tombaient malades, avec ce programme-là du Fonds mondial qui appuyait à nos Congo, même les enfants étaient quand même bien soignés. Mais pour le moment, depuis qu'à mon Congo n'a pas ce financement du Fonds mondial, on est vraiment, c'est vraiment une débandade.
Merci Jean-Marie. J'ai en ligne Richard Kama.
Oui, je suis en ligne.
Voilà, Richard, vous avez écouté, vous avez entendu notre invité Jean-Marie Chipama, qui est de ICO Plus à Kananga et qui est activiste des droits de l'homme et aussi très actif dans la lutte pour de meilleures conditions des personnes vivant avec le virus. Jean-Marie est lui-même une personne qui vit avec le virus. Est-ce que vous avez une question pour lui?
Oui, je voudrais bien savoir poser la question à Jean-Marie pour savoir comment ils s'en prennent, comment ils arrivent à s'organiser et après la fermeture, selon ses dires, des activités de l'AMO Congo ou de la fin du financement de l'AMO Congo, comment ça se passe maintenant au niveau de Kananga pour la prise en charge, donc la prise en charge de PVV.
Oui, merci Richard pour la question. Depuis que le Fonds mondial a cessé d'appuyer à Mokongo, je vous dis que c'était vraiment tout un deuil ici à Kananga. D'ailleurs, ICO Plus s'est quand même impliqué pour que ce centre de traitement ambulatoire ne soit pas fermé. Ici à Kananga, on l'appelle plus à Mokongo, mais c'est l'unité de prise en charge qui est maintenant intégrée au niveau de l'hôpital général de référence de Kananga. C'est du centre hospitalier de Kananga. C'est grâce au PNMLS et aux efforts de l'ICOP, puisque à Mokongo, prenait en charge beaucoup de PVV ici à Kananga. Mais comment on s'organise maintenant, je vous dis, mon frère Richard, c'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame parce que à Mokongo, notre démarche a fait que les deux médecins prescripteurs soient quand même considérés comme fonctionnaires de l'État. Ils reçoivent à la fin du mois leur salaire là-bas. Mais les autres assistants qui travaillent avec eux, ou comment ils vont s'arranger? Donc, ils sont obligés d'aider quand même des PVV. C'est pour ça qu'on s'est mis quand même de commun accord pour que s'il y a une petite contribution d'un dollar, chaque fois qu'on va à l'unité de prise en charge, on peut quand même donner pour aider ces assistants-là à vraiment rester permanents pour aider la PVV. Mais au niveau de notre gouvernement, comme à Mokongo était fermé, on a dispatché presque toutes les PVV au niveau des zones de santé. Mais au niveau des zones de santé, il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux puisque le personnel d'abord qui est là n'est pas suffisamment formé et il y a des fois qui sont vraiment permutés à tout bout du champ. Et ceux qui les remplacent ne savent pas vraiment prendre le PVV en charge comme il le faut. Mais pour à Kananga, vraiment, on se débrouille. C'est pour cela que nous encourageons souvent que la PVV soit au niveau d'une organisation à assise communautaire. Parce que quand la coordination, y compris à une information, il relaye ça à travers toutes nos organisations, alors les PVV sont quand même agrégés. Mais pour bien dire, au niveau des zones de santé, vraiment, on ne peut pas dire que les choses marchent parce que le personnel qui est là n'est pas suffisamment formé et recyclé à tout moment, et il est permis à tout moment, cela pose problème. Puisqu'on peut se retrouver devant quelqu'un qui ne connaît rien du VIH, mais il est là, peut-être à la pharmacie, il est là au CDB, et il sait par où commencer. Et ça pose problème, vraiment.
Merci Jean-Marie, j'espère que Richard a été satisfait de cette réponse. Jean-Marie, nous avons vu donc que la prise en charge médicale n'est pas très complète, que les infections opportunistes qui sont vraiment le véritable danger pour les PVV ne sont pas tellement prises en compte dans le traitement et dans la prise en charge, que le suivi biologique aussi laisse à désirer. L'appui nutritionnel est en train de s'effriter. Parlons rapidement, avant la fin de cette émission, de la prise en charge psychosociale. Quelle est son importance et comment est-ce qu'elle se passe?
Ok, merci beaucoup. Nous savons que quand on va au dépistage, et on connaît tout de suite son état sérologique. Ça fait vraiment un choc. C'est vraiment le départ de tout le drame que peut connaître la personne vivant avec le VIH. Bien sûr, on peut lui donner les ARV, on peut lui donner à manger, mais si son moral est bas, la PVV finira toujours par casser la pipe. C'est pour cela qu'il est important que cette PVV soit vraiment accompagnée de manière psychosociale. Vraiment, on m'a accompagné comme il le faut.
Merci Jean-Marie. Merci vraiment pour cet avis d'expert et merci de nous avoir éclairé.
Au revoir.
Et bonne soirée à Kananga.
Au revoir, Kali.
Au revoir, à la prochaine. Richard, au revoir aussi à vous, Richard.
Merci bien, au revoir, à la prochaine.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Notre invité était Jean-Marie Chipama, activiste des droits de l'homme en RDC. Réalisation Fatma Kalala.